Je vous invite à écouter la lecture de deux textes, donc dans le livre de l'Exode, chapitre 21 à 21, qui fera l'objet de la prédication. Je ne sais pas si Exode chapitre 20, ça vous dit quelque chose, mais vous allez vite reconnaître de quoi il s'agit. Et Dieu prononça toutes ces paroles. « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi, le Seigneur ton Dieu. » Un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations si elle m'aime et garde mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que du jour du sabbat on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou les migrés que tu as dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur, ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, tu n'auras de visée ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. Et seconde lecture, qui est une des lectures recommandées aujourd'hui. Il y en a tous les jours, et le dimanche, il y en a même plusieurs. Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. C'est juste après le baptême de Jésus. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, guide-nous par ta parole et qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Amen. John Shelby Spong, c'est un évêque anglican, américain, il doit être à la retraite. Et même si c'est un évêque, c'est une figure du protestantisme libéral. Il a écrit bon nombre de livres, dont une demi-douzaine ont été traduits en français. Je vous les recommande, ils sont brillants, ça décoiffe, et ils sont très très clairs et très pédagogiques. Dans l'un d'eux, il rapporte une expérience qu'il a menée un dimanche. Il était en tournée dans son diocèse. Et se livrant à une prédication interactive, il a demandé à l'assistance, qui, dans l'assistance, pensait que les 10 commandements avaient encore de l'importance. Évidemment, tout le monde a levé la main. Il a dit, très bien, alors, quelqu'un va pouvoir nous les réciter. Toutes les têtes se sont baissées. Alors, il a dit, bon, on va essayer de les retrouver ensemble, qui peut m'en citer un? Et ainsi de suite. Alors, ils en ont trouvé 9. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. J'essaie de vous dire pourquoi, mais tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain a échappé à tout le monde, à la mémoire de tous. Mais bizarrement, ils en ont ajouté 2. Ceux que j'ai lus là. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, ta pensée et ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements sont bien dans la Bible, ils sont dans le Premier Testament et dans le Nouveau, mais ils ne sont pas dans les 10. Alors, la question, c'est de savoir comment se fait-il que ces 10 commandements qui sont le cœur de la loi, hein, avec une majuscule, qui sont reproduits sur les murs de bien des temples, églises ou synagogues, qui sont le fondement du judaïsme et du christianisme, ces commandements sont donc célèbres, mais mal connus, même de pratiquants, puisque c'était évidemment des pratiquants qui écoutaient l'évêque Spong ce jour-là. sont-ils si importants aujourd'hui? Alors Spang dit importants, je dirais pertinents ou actuels. Alors je vous propose de les reprendre dans l'ordre. Alors, je vais grouper les deux premiers. Tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne feras pas de statue. C'est évidemment fondamental. C'est le monothéisme et la condamnation de l'idolâtrie. C'est capital, c'est notre identité religieuse, notre essence, c'est essentiel que nous soyons juifs, chrétiens et même musulmans. Il y a 2500 ans ou 3000 ans, quand ça a été écrit, la question était encore plus brûlante. Israël était entouré de pays polythéistes et idolâtres, d'où un caractère encore plus marqué dans l'importance et le côté identitaire, comme on dit aujourd'hui, vital de ces deux, ce double commandement. Dans le premier testament, notamment, la colère de Dieu se déchaîne contre son peuple, et la plupart du temps, c'est par violation de ce double commandement, parce que le roi ou le peuple ont sacrifié au Baal, comme on dit, ou a épousé des païennes. Le monde a changé, nous ne sommes plus dans la même situation, nous ne sommes plus entourés de polythéistes, nous sommes entourés d'agnostiques, et ces commandements n'ont plus autant d'originalité. Alors, ils servent encore dans les polémiques entre les trois monothéismes. Heureusement, ça s'est atténué puisque nous ne sommes plus au temps des guerres de religion, mais les Juifs, par exemple, reprochent aux chrétiens d'avoir fait de Jésus un dieu et aux musulmans d'avoir fait de Mohammed un dieu. Les protestants, les Juifs, les musulmans, eux, ils ironisent sur le goût des catholiques ou des orthodoxes pour les statues ou les icônes. Bon, ça devient anecdotique, ça ne touche plus au fondement de la foi, des fois respectives, puisque, comme je vous le disais, les guerres de religion sont terminées. Alors, le suivant. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est celui-là que les fidèles avaient oublié. Alors, en effet, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, on pense que c'est une condamnation du blasphème. Enfin, prendre le nom de Dieu en vain, ce n'est pas insulter Dieu, ce n'est pas la même chose. Je crois que si on se reporte à nouveau 2500 ans en arrière, on constate que tout le monde est presque été illettré. Donc, pour toute transaction, on n'exigeait pas de contrat. Les scribes, ça coûtait trop cher. On topait. Et éventuellement, dans les cas graves, on prêtait serment devant Dieu. Alors, en effet, il faut respecter la parole donnée devant Dieu. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Enfin, c'est un peu dépassé. Nous ne prêtons plus souvent serment devant Dieu. Alors, si, au mariage religieux. Au baptême, hein, le parrain, la marraine et les parents font serment de s'occuper de l'éducation religieuse du filleul. Dans les pays anglo-saxons, les témoins prêtent serment sur la Bible devant le tribunal. Le président des États-Unis prête serment sur la Bible. C'est pas rien, mais c'est pas la vie quotidienne quand même. Ce commandement ne nous parle plus qu'à l'occasion, donc. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont oublié ce jour-là, les fidèles de Spang. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Alors l'institution du sabbat, vous savez, c'est dans le texte, hein, rappelle le septième jour. Le septième jour, c'est le samedi, hein, je signale. Le samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Lorsque Dieu s'est reposé après avoir créé le monde en six jours. Dans le Deutéronome, il y a une autre explication. Alors ce commandement, comme vous le savez, est parfaitement respecté scrupuleusement par nos amis juifs, enfin ceux qui sont plus pieux et plus pratiquants, mais les chrétiens, pas seulement les chrétiens d'ailleurs, puisque la République laïque a retenu le dimanche comme jour de repos, les chrétiens ont déformé totalement ce commandement. Nous prenons le dimanche, premier jour de la semaine, jour de la résurrection de Jésus. Bon, c'est un peu comme si nous avions dit à Dieu, notre Père qui est aux cieux, bon, le samedi, ça ne nous arrange pas, on va dire plutôt dimanche. Oui. Donc le commandement, hop, écarté. Honore ton père et ta mère. Quoi de plus normal, de plus moral? Si vous suivez l'actualité, nous sommes confrontés régulièrement à des faits divers, sordides ou horribles. Des parents ont abusé sexuellement ou commis des actes de violence jusqu'au meurtre sur leurs enfants. Il y a eu récemment, à l'occasion d'un fait divers très médiatisé, des études statistiques. Et on a découvert qu'environ 10% de Français ont été victimes d'actes incestueux dans leur enfance. Ça me paraît, enfin moi je m'occupais de ce genre de contentieux à une époque, ça me paraît terrifiant et peut-être un peu gonflé, enfin bref. Alors notre Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. De là à demander aux victimes d'honorer leur bourreau, il y a une marge quand même. Et donc ce commandement doit être pris en tenant compte des exceptions, et si c'est 10% d'exceptions, c'est quand même beaucoup. Tu ne commettras pas de meurtre. Ah, je préfère la vieille traduction. Tu ne tueras point. Parce que c'est meurtre, bon, c'est professionnel, hein, c'est une qualification juridique assez restrictive, meurtre. Donc tu ne tueras point, voilà. Alors c'est le plus connu, c'est peut-être le plus, comment dire, le plus valable éthiquement. C'est le respect de la vie, sacré de la vie humaine. Enfin, c'est quand même le moins respecté. Hein. Enfin, non, ici il n'y a pas d'assassin dans cette salle, c'est pas ce que je veux dire. Mais sitôt que, enfin, peu après que Moïse ait donné les tables de la loi au peuple juif, celui-ci a traversé le Jourdain et massacré tout le monde, tous ceux qui occupaient la terre promise. Quand on massacre, il vaut mieux en effet avoir Dieu de son côté. Le livre de Josué, si vous le reprenez dans la Bible, c'est le récit d'un génocide. Ils ont massacré tous les occupants. Au nom de Dieu. Alors, on ne me traitera pas d'antisémitisme, je sais parfaitement que le livre de Josué n'a pas de valeur historique. Mais enfin, il y a eu des guerres, guerres de conquête, guerres de religion, guerres civiles entre croyants d'une même religion. Tant de massacres, tant d'horreurs. Spong, évidemment, comme il est américain, il rappelle que durant la guerre de sécession, les deux généraux en chef, Grant et Lee, priaient le même Dieu avec la même Bible, Bible dans laquelle il est écrit « Tu ne tueras point ». Les historiens estiment que nous vivons la période la plus pacifiée de l'histoire de l'humanité. C'est pas encore à gagner. Hein. C'est vrai qu'après deux guerres mondiales, on peut trouver que c'est un peu calme. À un niveau quantitatif moindre, ben, y a la peine de mort qui a sévi pendant des siècles dans des pays chrétiens. Et encore aujourd'hui. Elle n'a commencé à reculer qu'au XXe siècle. Vous connaissez peut-être le bilan de la plus grande puissance économique mondiale qui vante son christianisme et dont le président prête serment sur la Bible. Au niveau fédéral, dans les derniers mois de son bilan, le président Trump a levé le moratoire et fait exécuter 13 condamnés. 13 condamnés donc qui ont été offerts en holocauste à ses électeurs pour rien puisqu'il n'a pas été élu. Ce sixième commandement est donc merveilleux, indiscutable, capital, mais il y a beaucoup de gens qui s'en moquent complètement. Revenons à un sujet plus léger. Tu ne commettras pas d'adultère. Je ne dirais pas que je vois des sourires parce que j'ai des masques. Alors, l'adultère, en effet, c'est vu de façon ambivalente. C'est une atteinte aux valeurs de la famille, noyau de la société. C'est la violation d'un serment devant Dieu. C'est placé là entre le meurtre et le vol. C'est-à-dire que c'est... Mais on en vient très vite. Et quand je dis très vite, c'est parce qu'il y a des exemples dans l'Antiquité de théâtre comique. Il y avait déjà le théâtre boulevard dans l'Antiquité grecque. Hein. Vous connaissez peut-être la vieille plaisanterie, qui doit être un peu moins vieille que le livre de l'Exode, mais à peine. Moïse descend du Sinaï avec les tables de la loi et il annonce au peuple: j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, j'ai négocié, il n'y a que 10 commandements. La mauvaise, il reste l'adultère. Hein? Donc, on plaisante avec ça alors que c'est bizarre parce que c'est très éthique comme commandement. Les valeurs familiales, la parole. La condamnation sociale a bien reculé. Vous ne savez peut-être pas que jusqu'en 1975, en France, hein, l'adultère de l'épouse était un délit passible de prison. L'époux, lui, n'encourait qu'une amende, et encore, s'il avait commis l'adultère au domicile conjugal, parce que ça, c'était une circonstance aggravante. Bon, il y a une logique, hein, c'était que éviter d'introduire un élément étranger dans le foyer, l'élément étranger pouvant être l'enfant né des amours d'adultère, ou la maîtresse, si elle est venue, consommer sur place. Alors, c'est encore une. Alors, ça a été supprimé en 1975, je vous rassure, il n'y a plus de problème. C'est quand même encore une faute hein, qui peut entraîner un divorce au tort de l'époux infidèle. Je dis ça parce que, oui, la condamnation à la prison, il n'y a pas eu à y avoir beaucoup, mais les constats d'adultère que faisaient jadis les détectives privés, c'était pour les procédures de divorce. Alors, ça peut encore, c'est pas un motif péremptoire, mais justifier un divorce au tort d'un des époux, tort exclusif. Je me souviens que, lorsque j'étais juge aux affaires familiales, une collègue qui était substitute du procureur, nous bavardions en fumant une cigarette sur la pelouse derrière le palais de justice d'Evry, me demande comme ça, négligemment, si l'adultère est encore une cause de divorce. Alors je lui ai dit oui. J'y suis après que cette collègue avait une liaison illicite avec un officier de gendarmerie. Vous voyez, les procureurs et les gendarmes se livrent à l'adultère. C'est dire si l'interdit social a bien reculé. Je connais un cas plus sérieux, un couple que je connaissais, le mari était plus âgé et il a souffert de troubles cardiaques. La faculté lui a déconseillé, comment dire, certaines activités conjugales un peu physiques et il a autorisé son épouse à prendre un amant. Bah, tout le monde s'est bien trouvé, y compris l'époux d'ailleurs, puisque sa femme étant heureuse, l'harmonie régnait au domicile conjugal. Est-ce que c'est vraiment immoral? Et puis bon, vous vous souvenez évidemment que du temps de Jésus, l'adultère était puni de la lapidation, donc on ne peut que se réjouir que ce commandement ait perdu presque toute sa pertinence. Je parle évidemment des pays chrétiens, car il y en a d'autres qui ne se disent pas chrétiens et où ça se passe différemment. Suivant. Alors, tu ne commettras pas de vol. Bon, pas de problème, il ne faut pas voler. La valeur éthique de ce commandement est évidente. Mais, bon, quand Jean Valjean vole un bout de pain parce qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a plus rien à manger, est-ce que c'est un péché? Le péché, le mal, n'est-il pas plutôt dans le système, comme on dit aujourd'hui? Les conditions sociales qui font que quelqu'un en est conduit à faire cela. Ce n'est pas que de la littérature. Au XIXe siècle, en France, je pense que Victor Hugo a dû en avoir eu connaissance, une femme avait volé de la nourriture pour nourrir ses enfants. Le tribunal l'a relaxé sur la base juridique tout à fait classique, qui s'appelle l'état de nécessité. Nécessité non pas parce qu'elle était dans la nécessiteuse, mais parce qu'il y avait nécessité à voler de la nourriture puisqu'elle n'en avait plus, et des enfants à nourrir. C'est le principe de la théorie de l'état de nécessité, c'est d'éviter un dommage ou un trouble à l'ordre public encore plus grave. En l'occurrence, elle et ses enfants seraient morts de faim, ce qui eût été un trouble à l'ordre public. Elle a donc été relaxée. Et les médias, à l'époque, ont salué la décision du bon juge. C'est pas souvent. Alors j'ai eu à connaître deux cas semblables. J'étais à la cour d'appel de Poitiers, ces deux femmes, séparément, avaient volé de la nourriture. Elles arrivent devant le tribunal, elles sont relaxées sur la base de la jurisprudence du bon juge. Et le procureur a fait appel. Alors le procureur ne s'appelait pas Javert, je vous signale. Il a fait appel, il dit, on va quand même pas autoriser les misérables à manger sans payer. Nous les avons condamnés. Bon, à des peines symboliques. Il faut dire, elles avaient un peu forcé, il y en a une qui avait volé plusieurs kilos de viande et l'autre du saumon fumé et du champagne. Bon, ben après tout, les pauvres ne seraient-ils autorisés à ne voler que du pain, rassis de préférence? Je vous laisse la question. Le suivant, tu ne feras pas de faux témoignages. Là, j'ai rien à dire. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait justifier une exception à l'interdiction de faire un faux témoignage contre son prochain. Il ne s'agit pas d'un pieux mensonge, c'est le témoignage. Paraît qu'au catéchisme, on dit qu'il ne faut pas mentir, mais ce n'est pas un mensonge. Un faux témoignage contre un prochain, c'est autre chose qu'un simple mensonge. Donc voilà, commandement immuable. Et voici le dernier, enfin celui que les catholiques et les orthodoxes divisent en deux. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, sa femme, ses serviteurs, son bœuf, son âne. Alors, c'est un commandement un peu problématique, non? Parce qu'il semble faire doublon avec l'interdiction du vol. Alors, je vous ai lu, je ne sais plus comment c'est dans la traduction œcuménique, moi j'avais travaillé sur une traduction qui disait convoiter la maison de son voisin. Alors, ça dépend ce qu'on entend par convoiter. S'il s'agit d'avoir l'intention de voler, ça fait double emploi, donc ça ne va pas. En plus, il y a le vol, le faux témoignage, puis l'intention de voler. Enfin, ça ne serait pas cohérent. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut comprendre envier, jalouser. Jalouser la maison de son voisin, sa voiture, bon, pas sa femme. Mais... Alors, la jalousie est un vilain défaut. Hein. Bon, nous vivons dans le système capitaliste libéral. Et vouloir acheter la même maison, la même voiture que son voisin, c'est un puissant aiguillon, un puissant moteur pour travailler, produire des richesses, contribuer à la croissance économique du pays. C'est donc maintenant, c'est devenu positif. On cite souvent la phrase de Guizot, qui était ministre de Louis-Philippe. Il était protestant. Hein. Enrichissez-vous. Ben oui, ça, le meilleur aiguillon pour s'enrichir et donc améliorer la société, c'est de convoiter. Bon, comme il y a le couvre-feu, tout à l'heure, je ne vais pas vous parler du ruissellement tout de suite. Alors, c'est un peu matérialiste. C'est pas très chrétien, c'est pas très chrétien. Oh. Nous sommes des protestants, nous ne vivons pas dans des monastères. Il faut bien se nourrir, s'habiller, avoir un toit. Et puis, si on élève le débat au-delà des biens matériels, vouloir faire aussi bien ou mieux que les autres, est-ce que c'est condamnable? Donc voilà un commandement qui est un peu perdu de sa pertinence. Alors, qu'est-ce qui reste de ces paroles éternelles, absolues, censé avoir été écrite par le doigt de Dieu? Ben, pas grand-chose. Des commandements un peu dépassés, voire oubliés et très méprisés, ou qui doivent supporter des exceptions assez notables. Je ne pense pas qu'ici, quelqu'un croit encore que ça s'est passé comme dans le film de Cécile B2000, très le feu, qui est le doigt de Dieu qui vient frapper dans la falaise sa divine volonté. D'abord, c'est... J'y crois pas, mais en plus, comme il y a deux versions dans la Bible, une dans l'Exode, l'autre dans le Deutéronome des 10 commandements, ça ne peut pas le faire. Hein. Dans la dernière version, qui s'appelle Exodus, pas le bateau, hein, c'est une nouvelle histoire de Moïse, on voit Moïse qui grave au burin sous la dictée d'un ange. Ils n'ont pas osé aller montrer ça. Alors on retient la leçon qu'il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la façon dont les hommes, il y a bien longtemps, ont compris cette parole. Et l'ont retranscrite selon les époques où ils vivaient, époques très différentes. Ça, on estime que ça a dû prendre un petit millénaire pour rédiger toute la Bible, entre les textes les plus anciens, qui n'est pas la Genèse d'ailleurs, mais bon. Et le plus récent, qui, comme vous le savez peut-être, est le livre de l'Apocalypse. Donc ça a bien changé, il faut adapter. Mais je ne vais pas rester sur ce relativisme. Il reste les deux commandements que les paroissiens de Spong ont ajouté au décalogue, l'amour pour Dieu et pour le prochain. Ces deux commandements sont les plus grands. Tous les autres en découlent, dit Jésus. Il résume tous les autres, l'a précisé Paul, c'est dans l'Épître aux Romains. Si on aime son prochain, en effet, on ne le tue pas, on ne le vole pas, on ne le dénonce pas injustement. Et ainsi, les commandements sont respectés. Vous avez peut-être remarqué que les 10 commandements, enfin il y a une exception, hein, sont des interdits. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne commettras pas de vol, etc. Et une exception, c'est tu honores ton père et ta mère. Mais tous les autres sont des interdits. Alors que les deux commandements additionnels, eux, sont positifs. Tu aimeras. Ça permet d'élargir la consigne. Ça veut dire tu aideras les pauvres, les SDF qui meurent dans nos rues. Et vu les circonstances, le record risque d'être battu cette année. Les malades, les prisonniers, les étrangers qui se noient dans la Méditerranée. Ces commandements induits ne figurent pas dans les 10 canoniques, mais ils sont dans le message du Christ. Ils en dépendent, ils en découlent. Je vais vous faire une révélation, je vais vous révéler la supercherie. Ça fait 20 minutes que je dis des bêtises. Je l'ai fait exprès. Je vous parle depuis 20 minutes des 10 commandements et de deux autres. Mais ce ne sont pas des commandements. Il n'y en a qu'un à l'impératif. Honore ton père et ta mère. Tous les autres sont au futur. Tu aimeras, tu ne commettras pas. Ce ne sont pas des commandements. Ce sont des promesses, des annonces. Décalogue, ça ne veut pas dire 10 commandements, ça veut dire 10 paroles. Dieu ne nous donne pas des ordres, des commandements. Il nous annonce, il nous promet ce que nous allons faire. Il le fait parce qu'il a foi en nous. C'est la phrase du pasteur Wagner, « L'homme est une espérance de Dieu ». Grâce à cela, au-delà du caractère immuable des textes bibliques, grâce à cette conviction, à l'amour du prochain, et en respectant la confiance que Dieu met en nous, nous approchons de la plénitude de Dieu. Nous devenons à l'image de Dieu, comme nous sommes censés l'être depuis le début de la Genèse, à l'imitation de Jésus-Christ, vous connaissez cette expression. Ainsi, nous avons le courage d'embrasser la vie, faire croître l'amour, mais ce n'est pas pour respecter un commandement, un ordre. Nous le faisons parce que nous sommes humains, parce que nous sommes humains, Dieu espère en nous, et ainsi nous devenons plus proches du divin et encore plus humains. Amen.